France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Avzia Herzi. Vers 19h45, le son du jour, Pacifica, d'Anushka Shankar. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir dans le Pas-de-Calais pour nous faire visiter le centre de conservation du Louvre à Liévin. C'est un bâtiment qui accueille depuis 2019 une partie des réserves du Louvre, soit à peu près 250 000 objets. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Lucas Finet à la prise de son. Bonsoir Avzia Herzi.
Bonsoir.
Vous serez demain à l'affiche de Borgo de Stéphane de Moustier. Vous serez un peu plus tard au Festival de Cannes. On a appris ce matin que La Prisonnière de Bordeaux, film de l'excellente Patricia Mazui, film dans lequel vous jouez avec Isabelle Huppert, notamment, fait partie de la sélection de la Quinzaine des cinéastes. Voilà une bonne nouvelle, parce que ça faisait longtemps, vous savez, que je souhaitais vous accueillir dans cette émission. Nous y voilà, on va parler de cette actualité, mais aussi revenir sur votre parcours, essayer de savoir comment vous travaillez, que ce soit comme comédienne ou comme cinéaste, puisque vous avez déjà réalisé un court-métrage, deux longs-métrages pour le cinéma, un film pour Arte, en attendant la suite. Oui. Dire que vous êtes la petite dernière d'une fratrie de six, la petite dernière, c'est le titre d'un livre de Fatima Das qui est important pour vous, dire, hélas, que votre père est mort quand vous n'aviez que 2 ans, Avzia Herzi, c'est donc votre mère qui a élevé longtemps, seule, ses enfants. Une enfance qui se passe dans la cité des Oliviers, dans les quartiers nord de Marseille. Une enfance pour vous très heureuse, et cette mère à qui vous avez rendu hommage, comme à toutes celles qui ont quitté leur pays, qui sont venues d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, pour tenter de proposer un avenir meilleur à leurs enfants. Ça, là, on le voit dans votre film Bonne Mère, sorti en 2021. Si c'est votre deuxième film, Bonne Mère, c'est celui que vous vouliez faire, j'imagine, depuis très longtemps. Et puis, vous l'avez tourné pour partie dans cette cité où vous avez grandi. Ce film, c'était quoi? Une envie, un besoin de dire merci?
Exactement, c'était un hommage que je voulais rendre à ma mère et à toutes ces femmes, toutes ces mamans. Enfin, pour moi, c'est vraiment un projet universel, et la mère d'ailleurs, elle aurait pu être de n'importe quelle origine. Bon, là, c'est d'origine maghrébine, parce que ce sont mes origines. Mais ouais, non, vraiment, c'était un hommage que j'avais envie de rendre un peu à ces fantômes de la société.
Alors, on reviendra bien sûr sur votre pratique de cinéaste, Avzia Herzi, mais je reviens sur cette enfance, sur un goût pour la lecture, pour la poésie et pour les récitations pour lesquelles vous excellez, et être sur l'estrade de la classe, déclamer, et éventuellement être applaudi par vos camarades, ça provoquait quoi chez la petite Avzia?
Beaucoup de fierté. Vraiment, j'ai tout de suite eu un amour pour la littérature, pour les mots. Bon, j'étais nulle en maths, j'avais tout le temps 0 et 20 en poésie, en récitation, en dictée aussi. J'aimais beaucoup, mais non, j'aimais bien. J'ai su très jeune que j'avais envie d'être actrice et réalisatrice.
Alors, actrice, oui, très jeune, j'ai lu que vous passiez des castings dès l'âge de 10 ans.
Oui, enfin 10 ans, mais après c'était plus des annonces que je voyais dans les journaux qu'on recevait à la maison. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Le 13, qu'on recevait gratuitement dans la boîte aux lettres. Et il y avait des annonces de casting, et donc j'en parlais à ma mère, et donc elle était OK. Et j'ai commencé par faire 2-3 figurations, donc j'étais très contente, parce que je découvrais les plateaux, les caméras, le matériel, les comédiens, les comédiennes. Et en fait, c'est là où... on va dire, je me suis fait plus ou moins repérer pour La Graine et le Mulet.
Ouais, parce qu'il y avait eu un petit rôle, un peu plus important quand même, dans Notes sur le rire, d'après Marcel Pagnol. C'est un téléfilm France 3 réalisé par Daniel Lossé. C'est quoi? C'est quand même le vrai premier tournage pour vous?
Oui, ça a été le hasard, parce qu'à la base, je devais être juste silhouette. Ça se passait dans une classe. Je sais plus de où c'était, quoi, CM1 ou CM2, je sais plus. Et en fait, ce jour-là, donc la jeune fille qui devait... il fallait réciter un poème ou un extrait de livre, je sais plus.
C'était pour vous, ça?
C'était
obligé.
Pour moi, elle était malade, du coup il m'a dit « Écoute, ce que tu veux ?» Je dis « Ok ». Donc je suis allée dans une salle, j'ai vite appris le texte très rapidement, et j'ai fait la scène.
Et puis, il se trouve que la trilogie marseillaise de Pagnol, Marius, Fanny, César, ça fait partie aussi de vos premières fortes émotions de spectatrice. J'ai lu que vous regardiez ces films régulièrement, c'est encore le cas ?
Oui, bah dès que, enfin au moins une fois par an, je regarde la trilogie, j'aime beaucoup. Moi j'adore les œuvres de Marcel Pagnol, vraiment j'ai grandi avec et ça m'inspire énormément.
Et vous avez même joué au théâtre, c'est rare de vous voir au théâtre dans l'adaptation mise en scène par Francis Huster. Vous étiez aussi fan d'Emmanuel Béard dans Manon des Sources.
C'est pour ça que j'ai accepté le théâtre, parce que j'étais très stressée à l'idée de faire du théâtre. Et vu que c'est la trilogie de Pagnol, je me suis dit, bon bah super...
Là, vous étiez en terrain connu.
Oui, mais c'était très difficile d'ailleurs. Hein. Mmh. Le théâtre, c'est très dur. En tout cas, on a fait, je crois, 100 représentations, les 100, tous les soirs. J'étais tremblante de peur, c'était difficile. Ouais.
Il n'y a pas eu de plaisir ?
Si, il y a eu du plaisir, mais voilà, que j'ai un petit peu oublié. Quoi.
Mmh. Ça ne vous a pas donné envie d'y revenir ?
Non, d'ailleurs, après, on m'a proposé d'autres choses et j'ai refusé parce que vraiment, je n'avais pas le courage. On répétait, il n'y avait personne. Et quand on a commencé à jouer, il y avait du monde. Et là, j'avais les réactions en direct du public et vraiment, ce n'est pas pour moi trop de stress.
Bon, mais vous faites très bien d'autres choses, donc tant pis si on ne peut pas vous voir sur une scène. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup, hein, mais bon, et ça en passant, je ne suis pas le seul, sans
doute. Peut-être plus tard.
Bon. Après votre bac, il y a un début d'études de droit, mais donc, c'est à ce moment-là que la directrice de casting, Abdelatif Kechiche, je vous appelle. Vous n'avez pas encore 18 ans, Verzi. Le film, ce sera La Graine et le Mulet, qui vous vaudra le César du meilleur espoir féminin. Entre autres, nombreuses récompenses pour ce film. C'était le troisième long-métrage, Abdelatif Kechiche, qui lui aussi... a été comédien, on l'oublie des fois un peu, mais
oui,
il a commencé
bon
comme ça. Écoutez-le, c'était sur France Culture en 2010.
Je crois que le premier jour du tournage du Thé à la menthe, je me suis dit que le métier d'acteur au cinéma, c'était pas fait pour moi. J'ai été paralysé par les rails, paralysés par le mouvement, paralysés par tout ce qu'on mettait au sol. Comme je me sentais pas libre du tout en tant qu'acteur sur un plateau de cinéma. Dès le premier jour, il fallait obéir à des règles qui ne laissaient pas mon corps en mouvement comme je l'avais surtout à cette époque. Et ça m'a complètement paralysé. Et je me suis, à partir de là, à partir de ce premier jour, j'en ai parlé, je me souviens, avec le réalisateur. J'avais 22 ans. Et je lui ai tout de suite posé la question de « mais on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. » Du cinéma. Et tout le monde, à l'époque, me répondait « non, on peut pas faire autrement du cinéma. Le cinéma, ça obéit à des règles, ça obéit à des principes, c'est les règles de l'art auxquelles il faut. » J'ai eu d'autres expériences en tant qu'acteur au cinéma, mais je me suis toujours trouvé aussi mal à l'aise. Et en me posant toujours la question, mais comment faire autrement ? Comment faire autrement pour se sentir à l'aise ? Peut-être jusqu'à ce que je décide de l'envie, le désir, en tout cas le presque la décision de devenir réalisateur, ça a été dès le premier film. J'exagère peut-être en disant le premier jour, mais presque. Et j'ai vraiment commencé à réfléchir là. Oui. Comment faire ? Puis après, j'apprenais qu'on pouvait prendre la caméra à l'épaule, qu'on pouvait plus se libérer en prenant un objectif qui faisait une moins belle image, mais qui quand même laissait plus de liberté. Et c'est cette liberté que j'ai cherchée pour pouvoir me libérer de quelque chose qui me dérangeait dans la fabrication d'un film.
Alors il a trouvé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Abdelatif Kechiche, cette liberté, c'est bien sûr une rencontre, on l'imagine bien marquante pour vous, Afzia Herzi. Alors que ce soit dans votre pratique de comédienne, mais aussi par la suite en tant que cinéaste, on en parlera, mais vous avez retrouvé Abdelatif Kechiche 10 ans après La Graine et le Mulet, toujours à 7 d'ailleurs, pour Make My Love, Canto Uno, celui qu'on a pu voir. C'était un peu avant de réaliser votre premier film, qu'est-ce que vous avez retrouvé en le retrouvant lui ?
Bon, déjà, on était toujours en contact, hein, depuis La Graine et le Mulet, on se voyait régulièrement. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a encouragée, hein, à foncer vers la réalisation. Parce que dès que j'ai fait La Graine et le Mulet, je lui ai tout de suite fait part de mes envies de réaliser.
Vous aviez déjà écrit des choses, hein.
Oui, ouais. Que je lui ai fait lire. Il m'a dit, mais t'as raison, moi, j'ai fait mon premier film à 40 ans et je regrette. J'aurais dû le faire plus tôt. Il m'a dit vraiment, il m'a toujours encouragé, m'a offert des livres de montage, de scénarios, enfin, il m'a toujours soutenu. Et donc, ces retrouvailles artistiques sur MakeTube, ça a été beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je lui disais, mais t'es sûre et tout. J'avais vraiment peur qu'il soit déçu. Mais c'était très émouvant. Et donc, à la première prise, et j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. Et moi aussi, et voilà, je me suis dit, bon, ça va. Mais j'ai retrouvé un réalisateur différent. Ce n'était pas du tout la même personne que sur La Graine et le Mulet. On a fait deux prises. Je lui dis, mais pourquoi deux prises? Enfin, je ne suis pas habituée à ça avec toi. Et non, c'était un autre metteur en scène, quoi.
Mais vous étiez une autre comédienne aussi.
Aussi, mais je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Moi, vraiment, je m'attendais à faire 50 prises. Et là, non, deux prises. Bon.
Bah parce qu'il avait ce qu'il fallait.
Oui, mais même pour les autres séquences, c'était assez rapide. Bon, c'était des prises longues, mais ce n'était pas comme sur La Graine et le Mulet où... on tournait non-stop, quoi.
Ouais, vous étiez un peu en manque, du coup.
Bah oui, j'avais envie de tourner plus, quoi. Donc je l'ai supplié. Je me suis dit, si tu veux pas refaire, je t'en supplie. Mais non, c'est bon, allez, laisse-moi tranquille. Donc, ouais, non, un autre metteur en scène.
Alors, pour le coup, il y en a eu beaucoup d'autres cinéastes avec qui vous avez tourné. Alain Guiraudière, Adou Mealianou, j'arrive jamais. Pardon, Yamaba, Samuel Berco, Sylvie Vered, Portante, Mehdi Benatia, Sébastien Bailly, oui. Étienne Comard, Roche Dizem. Bon, bref, chaque création est évidemment différente, chaque cinéaste est différent, chaque rôle est différent. Mais je me demandais, dans ce parcours déjà pas important maintenant de comédienne, bien sûr, il y a une expérience, il y a une pratique, mais est-ce que il y a une mémoire des rôles que vous avez joués, que vous pouvez convoquer pour tel ou tel rôle?
J'irais plus que chaque expérience m'a appris sur moi-même et on va dire un peu à perfectionner certaines techniques. Bon, même si j'aime pas trop ce mot, parce que mais il est quand même important. Mais non, il y a une mémoire des rôles, des rencontres aussi, parce que chaque metteur en scène est différent, chaque metteur en scène nous regarde de manière différente aussi. On a des regards différents qui sont posés sur nous à chaque film. Donc non, je dirais plus, voilà, ça m'a appris plus de choses différentes, quoi.
Parmi les très beaux films dans lesquels vous avez joué, La Polonie, Le souvenir de la maison close de Bertrand Bonello, j'évoquais ce film avec lui dans cette émission, c'était en novembre 2022, on écoute cet extrait.
J'avais envie de faire un film avec un groupe de femmes, que des filles. Et je voulais pas que ce soit inscrit forcément dans le monde contemporain ou les confronter à des histoires d'amour, d'enfants, de travail. Donc du coup, voilà, comme la maison close est un lieu que je trouvais passionnant, d'abord parce que le mot clos, c'est-à-dire propice à fabriquer un imaginaire et... un peu comme une salle de cinéma en fait, c'est un lieu clos. Donc j'en ai fait, je me suis dit ok, je vais travailler sur un groupe de prostituées en 1900, qui était en plus une époque qui me fascinait, la transition du 19e au 20e.
Alors on entend bien dans l'approche de son sujet hein, par Bertrand Bonello, il se trouve, je choisis cet extrait parce que vous avez à Zerzi beaucoup été en contact avec ces questions liées à la sexualité, qui font partie de votre parcours à la fois de comédienne et de cinéaste, que ce soit Fugue marocaine avec Caroline Link, avec Sex Doll et Madame Claude, Sylvie Vered, mais aussi donc comme cinéaste dans Tu mérites un amour et dans Bonne mère, qui propose là des points de vue féminins sur les relations amoureuses et sexuelles, sur le désir, sur la féminité, sur la perte de confiance aussi en soi. C'est une question que le cinéma se pose depuis longtemps, hein, cette question de la sexualité, de sa représentation. Et pour vous, il me semble que c'est un sujet comme un autre, en fait, abordé comme les autres, c'est-à-dire avec un souci de vous approcher le plus possible du réel, je mets des guillemets.
Parce qu'elle fait partie de la vie. Après, c'est vrai que dans Bonne Mère, c'est plus dans les paroles. Parfois dans la manière de filmer certains personnages. Mais en même temps, elle nous concerne tous. Elle fait partie de la vie. Et je pense que les films, le cinéma, en tout cas, permet de parfois lever des tabous sur certaines choses qui ne doivent pas l'être parce qu'elles font partie de la vie.
Non, mais il n'y a pas beaucoup ou pas tant que ça de cinéastes qui s'y collent à ces questions-là.
Bah oui, mais moi ça m'inspire quoi. Enfin, c'est des choses, en tout cas la sensualité, les rencontres aussi, les sentiments qui m'inspirent beaucoup.
Un goût du réel qui passe aussi par le fait que dans votre film Bonne Mère, l'avocate est une vraie avocate, le dentiste est un vrai dentiste. Côté jeu, pour préparer le ravissement d'Iris Kaltenbach, vous aviez, puisque vous y jouiez une sage-femme, une mailloticienne, vous avez passé du temps dans une maternité, vous avez fait des gardes de 12 heures. Ça, c'est votre méthode habituelle, ça ?
Oui, en tout cas, c'est une méthode, quand elle est possible d'être appliquée, que j'aime appliquer. Comme pour là, le film de Stéphane de Moustier, j'ai passé du temps en prison avec des surveillants, des détenus aussi. J'ai fait des... On a parlé de cinéma, enfin des ateliers cinéma, même si bon, ça n'avait rien à voir avec le film, c'était important pour moi en tout cas d'échanger avec eux. Et oui, en tout cas, quand le personnage s'y prête, c'est important pour moi d'aller sur le terrain. Je ne me vois pas arriver sur place sans avoir rien préparé, sans essayer de me mettre dans la peau du personnage.
Puis pour des métiers, je dirais presque manuels, comme sage-femme, c'est important d'avoir soi-même l'appréhension de ces gestes-là.
Bah, il faut être crédible, et surtout que dans le film, j'ai vraiment, dans certaines séquences, j'ai vraiment fait de vrais gestes, quoi. Parce qu'à un moment, on oublie la caméra et on a devant nous une future maman qui va accoucher. Et on n'a qu'une envie, c'est de vraiment la soutenir. On oublie le reste.
On reste sur votre façon de travailler en tant que cinéaste et on va voir qu'elle n'est pas très éloignée de celle de Marcel Pagnol. On va l'écouter dans l'émission Ciné Magazine. En 73, il évoque sa façon de travailler au micro de Philippe Esnault.
J'avais d'ailleurs acheté une très grande propriété qui s'appelle La Busine, qui est à Marseille, avec un grand château. Je voulais y faire la cité du cinéma. C'était tout à fait au début de la guerre. Et alors, quand la catastrophe est arrivée, il fallait, pour acheter un boulon, il fallait remplir 3 dossiers, n'est-ce pas, les bons matières, ceci, cela. Alors, il fallait que je construise des studios dans les prairies qu'il y avait là-bas et que je fasse un hôtel dans le château pour les acteurs et pour les techniciens, avec 2 restaurants. J'avais préparé tout ça. Puis alors, j'ai dit, la guerre va durer encore 1 an, nous ferons ça après. Puis la guerre a duré 4 ou 5 ans. Et puis je me suis dit, je suis trop vieux maintenant pour me lancer dans une affaire pareille encore. Il vaut mieux que j'écrive. Oui. Parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps.
Oui.
Vous comprenez ? Et ça m'a fait gagner d'autre part, parce que j'écrivais à loisir, personne tripotait mon texte, comme il arrive souvent, vous savez, avec des très beaux romans, ils ont fait des navets monstres.
Oui.
C'est arrivé assez souvent. Je ne l'avais pas fait pour gagner de l'argent, je l'avais fait pour être mon maître, libre. Et j'habitais dans les labos. J'avais un petit appartement dans les labos et un autre dans les studios. Et j'avais un restaurant et je déjeunais tous les jours avec mes hommes, n'est-ce pas ? Et quand on tournait avec les comédiens, les machinistes, tout le monde à table, à la même table, et on parlait, on disait cet après-midi, on va faire ça et ça, toi tu feras ça, lui il fera ça. On discutait le coup comme ça, et j'écoutais les conseils de mes machinistes.
La participation.
Souvent, mais parfaitement, la participation au travail véritable. Ouais. C'est pour ça que mes films ne coûtaient pas très cher. Vous comprenez, je n'avais pas à payer l'auteur, je n'avais pas à payer le metteur en scène. Je n'avais pas payé le dialoguiste, c'était moi, tout ça. Et puis, machiniste, je jouais la comédie. Quand j'avais besoin de figuration, je faisais descendre l'électricien et je me disais, toi là, je faisais des gens très bien, vous en verrez dans le Schpoutz, qui sont des machinistes. Et dans La Femme du Boulanger aussi.
Alors, ce que Pagnol raconte à Vierzy, c'est pas si loin de la façon dont vous avez tourné votre premier long métrage, Tu méritais un amour, mais aussi Bonne Mère, avec toutes les bonnes volontés autour de vous.
Oui, et j'ai même fait participer des techniciens. Dans Tu méritais un amour, il y a le chef op qui joue. Il y a plein de techniciens, en fait, et même dans Bonne Mère. Mais je ne savais pas que Pagnol faisait pareil.
C'est l'héritage. Hein.
C'est peut-être un héritage. Mais il a raison. Il a raison parce que franchement, parfois, on cherche et on a des gens super devant nous et on n'y pense pas. Et je pense que vraiment, pour moi, on peut tous faire acteur.
Mais la question de la liberté aussi est importante.
Et la liberté, c'est trop important, la liberté. La liberté artistique.
Quand on réalise, qu'on écrit, qu'on met en scène.
Oui, et d'ailleurs, j'ai fait un unitaire Arte parce qu'on me l'a proposé. Je me suis dit, j'ai envie de me lancer dans...
La cour.
Pourquoi pas essayer, en tout cas, un film que j'ai pas écrit. Bon, même si je l'ai adapté un petit peu. Et c'est vrai que, même si j'ai pris beaucoup de plaisir, j'avais pas assez de liberté, quoi. Très vite, je me suis dit, non, mais c'est fini, quoi. La prochaine fois, je fais mon film. Et d'ailleurs, après Tu mérites un amour, j'ai reçu pas mal de... Il y a pas mal de producteurs qui m'ont approché pour des projets. Et je leur disais, mais moi, je veux ma liberté artistique. Je veux pas de quelqu'un qui vienne faire la police sur le plateau, qui, voilà. Je veux juste un échange artistique après le tournage.
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez su très tôt que vous vouliez être comédienne, mais aussi réalisatrice. Très tôt, c'est-à-dire quand ?
C'est venu en même temps que, je pense, à peut-être à, vraiment à 4-5 ans, peut-être. Même si je ne savais pas vraiment ce que c'était. En tout cas, j'aimais raconter des histoires à mes poupées, mettre en scène. Et très vite, à l'école aussi, avec mes copines, j'adorais la mise en scène. C'était vraiment un truc qui me plaisait. Et donc, après, avec mon premier tournage, La Graine et le Mulet, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire.
C'était une confirmation.
Ça a été vraiment une confirmation et aussi très vite, j'avais pas envie de dépendre. Enfin, j'ai compris que c'était un métier actrice et acteur où on dépendait beaucoup du désir des autres et ça vraiment, je voulais pas du tout de ça. Bon, déjà, je savais que physiquement, j'étais pas comme tout le monde, donc que j'allais recevoir moins de scénarios, que j'allais avoir moins de propositions.
Vous disiez ça ?
Ah oui, je le savais, j'en étais consciente en tout cas. Déjà à l'époque, maintenant c'est plus simple. En tout cas, il y a plus de diversité dans le cinéma, même s'il y en a pas, enfin même si c'est pas encore gagné. Mais à l'époque, moi j'ai eu des rendez-vous, on m'a dit mais. Le personnage n'est pas d'origine maghrébine ou autre.
Donc ça peut pas être vous ?
Donc ça peut pas être moi, ah oui. Et très vite, je me suis dit non, mais ça c'est hors de question, quoi. Et donc en fait, quand je travaillais pas, j'écrivais dans l'espoir d'un jour réaliser mes rêves de mise en scène.
Ah bah, ils sont déjà bien réalisés. Alors dans la mise en scène et dans le travail sur le plateau, si vous ne cherchez pas, enfin j'en sais rien d'ailleurs, mais vous cherchez pas forcément l'inattendu, mais vous êtes toujours à l'affût de ce qui peut se produire, de ce qui pourrait amener davantage de réel.
Exactement, de la vie, j'aime ce qui n'est pas prévu. En même temps, il faut quand même des choses prévues, parce qu'il faut bien qu'on tourne. Mais j'aime en tout cas quand une scène est interprétée d'une manière que je n'ai pas prévue, quand il y a des accidents de la vie, des fous rires. D'ailleurs, je dis souvent aux personnes que je filme, voilà, si vous rigolez, s'il y a quelque chose, vraiment, je vous en supplie, continuez. Donc, j'aime quand ce n'est pas prévu. Parfois, je fait dire à des acteurs des choses que l'autre ne sait pas, voilà,
pour
filmer la vraie réaction. J'aime bien ça. J'aime bien les surprises.
Et puis, on parlait d'amour, alors on va découvrir à Vierzy votre choix musical.
Oui.
Qui s'est porté sur une chanson qu'on entend, alors pas en entier, qu'on entend, mais un peu, dans Bonne Mère, c'est « Mon cœur te dit je t'aime » de Frédéric François. Elle continue de vous accompagner, cette chanson. Vous avez quelque chose pour crush pour Frédéric François?
Non, ma mère, par contre. J'ai grandi avec Frédéric François parce que ma mère était fan, et toujours fan d'ailleurs. Et j'aime bien ses chansons. J'aime bien ses chansons. Bon, c'est pour ça qu'on le voit dans Bonne Mère. Il y a son personnage virtuel. Mais je trouve cette chanson magnifique, très émouvante.
On l'écoute.
La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante. Mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur lorsque je rentre, que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête. Dans ma défaite, je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent. J'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te
dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur
On va remercier Alain Herzi pour ce choix musical qu'on va avoir dans la tête pendant plusieurs jours.
Oui.
Grâce à vous, moi, ça fait plusieurs jours que je le chante. Du coup, depuis que je connais ce choix, on va revenir à la comédienne Alain Herzi. On va commencer à évoquer Borgo, qui sort demain, qui vient de recevoir le prix du jury au festival de Reims Polar. Oui. Ce qui veut dire que c'est un jury de qualité.
Oui.
Et de goût. Question un peu évidente, mais est-ce que le fait d'être devenue cinéaste a changé votre jeu de comédienne?
Oui, bien sûr. On va dire, bon, déjà j'étais quelqu'un de très concentré, mais en tant que cinéaste encore plus, parce que je sais que chaque prise est importante. Enfin, j'essaie de penser au montage, au son aussi, et je sais que je comprends la difficulté de faire un film, donc voilà, j'essaie d'être au max à chaque fois, quoi.
Chaque fois, on l'a dit tout à l'heure, hein, chaque fois ce sont des univers différents, des personnes différentes. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous aimez beaucoup parler avec votre cinéaste avant le tournage? Est-ce que vous aimez faire votre cuisine dans votre coin? Est-ce que vous êtes très en demande ou pas trop?
Alors oui, j'aime bien parler en amont, en tout cas du scénario, et pour être, on va dire, plus ou moins d'accord. J'aime bien aussi parler un petit peu de la mise en scène, en tout cas quand le réalisateur ou la réalisatrice a envie d'en parler. Mais sinon, après, j'aime bien avoir ma liberté aussi, être tranquille, quoi, dans mon coin, et proposer. J'adore proposer des choses, des changements de texte. En tout cas, après, bon, on accepte ou pas. Mmh. Et j'aime bien décortiquer vraiment les scènes, mais bon, ça je le fais de mon côté. Mais non, après j'aime bien être tranquille, quoi. Mais après, de toute façon, c'est le metteur en scène qui a le dernier mot, hein. Après, on s'adapte, on est au service et on.
Et c'est lui qui choisira la prise, lui ou elle qui choisira la prise.
Ça nous appartient plus, après c'est fini.
Alors, Stéphane de Moustier, le film précédent c'était La fille au bracelet, qui a connu un très bel accueil public et critique. J'avais beaucoup, beaucoup aimé son film encore précédent, Allons enfants,
oui,
avec ses propres enfants et Vima Laponce. Alors, quand on vous propose un rôle à Vierzy, si, je ne sais pas si c'était le cas en l'occurrence, mais si vous n'avez pas vu les films des cinéastes qui vous souhaitent vous engager, est-ce que ça commence aussi par là, le fait de voir ce qu'ils ont fait avant?
Bien sûr, c'est important, je regarde, j'essaie de comprendre un petit peu l'univers et de voir si ça me parle. Bah, pour Stéphane, je connaissais son travail, je l'avais rencontré quelques années par hasard dans un festival où il y avait Tu mérites un amour aussi, et non, j'aimais beaucoup déjà son travail.
C'est vrai que ça peut être différent selon les cas, mais vous le disiez, décortiquer les scènes, c'est aussi lire très très précisément le scénario. Ça veut dire que le travail, la décision, elle se joue entre la rencontre humaine et quand même le projet.
Exactement, bah la rencontre humaine très importante, le projet, le personnage, mais après, de toute façon, moi ce que je dis souvent aussi, ce que je conseille, je dis qu'un acteur, il doit être indépendant, même s'il y a un metteur en scène derrière, il faut vraiment qu'il soit responsable, entre parenthèses, de lui-même. Il ne faut pas qu'il s'attende d'un metteur en scène avoir de l'aide, parce que tous les metteurs en scène ne sont pas directeurs d'acteurs aussi. Donc c'est important d'être indépendant et de partir sur des projets en se disant, bon, est-ce que je vais être dirigée ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il faut que je fasse mon travail de mon côté au cas où.
C'est ce que vous attendez aussi des gens que vous filmez, vous, en tant que cinéaste, qu'ils aient leur indépendance?
Oui, c'est ça. Pour moi, il faut qu'ils soient indépendants et surtout qu'ils aient un truc, un talent, un abandon, en tout cas, qu'ils aient envie de s'abandonner. Qu'ils aient envie de s'abandonner artistiquement, c'est très important. La générosité, en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça que moi aussi, dans les films que j'ai réalisés, je passe beaucoup de temps en amont avec les gens, j'essaie de les connaître plus ou moins, de créer une relation de confiance, c'est important, ça passe par là aussi, parce que quelqu'un qu'on n'aime pas, on va pas avoir envie de... Enfin, ça va être difficile de s'abandonner, on va pouvoir le faire peut-être techniquement, mais en tout cas, c'est pas la bonne méthode, quoi.
Oui, ça donnera pas grand-chose à l'écran.
Je pense pas.
Alors, dans Borgo, vous interprétez donc Mélissa, qui est une surveillante pénitentiaire, qui fait ce métier depuis quelques temps, mais quand le film débute, on comprend qu'elle vient de s'installer en Corse avec son mari, ses deux enfants. On comprend que c'est une sorte de nouveau départ pour cette petite famille. Lui, il va être menuisier, donc il doit se perfectionner. Donc elle assume un peu la vie de la famille, la vie matérielle. On parle très souvent de l'importance du costume avec vos consoeurs et confrères interprètes. Dans Borgo, il y a la Mélissa au travail,
oui,
dans cet uniforme qui est pas toujours très valorisant de gardienne de prison. Et puis il y a la Mélissa hors travail, le costume de Maton et puis les chaussures aussi, c'est important pour la préparation?
Ah bah bien sûr, et c'est important, en tout cas le costume, c'est important pour un acteur de se sentir à l'aise, bien dans sa peau, à l'aise dans son costume.
À l'aise, mais ça peut être aussi mal à l'aise, justement, du costume, mais il faut être à l'aise dans le rôle, même si le costume est mal à l'aise. Jouer avec un corset...
C'est ça. Ah oui, ça, ouais. Par contre, pour la polonide, ouais, c'était très difficile, ouais. Le corset, tous les matins, serré à fond, ouais, c'était dur, mais bon, on n'a pas le choix.
Mais ça joue sur le personnage.
Temps. Voilà, c'est le personnage, et ça met le corps en valeur aussi. Là, pour Borgo, non, moi, j'étais bien dans mon costume de surveillante de prison. J'étais bien, j'étais à l'aise. Et après, pour tout ce qui concerne les costumes à l'extérieur de la prison... c'est important aussi de ne pas être dans un cliché, peut-être. En tout cas, moi, très vite, j'ai dit à Stéphane, j'aimerais avoir quelque chose de simple, quoi. De simple, le plus simple possible.
Mais justement, la Mélissa, en civil, si je puis dire, elle paraît du coup plus fragile, comme si son uniforme, c'était quand même aussi une forme de protection qu'elle perd en l'enlevant.
Bien sûr, mais... Pour moi, quand même, ça reste quand même un personnage fragile, même si elle travaille dans un milieu assez difficile, bah parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Elle a ses enfants à gérer. Ils viennent d'arriver dans une ville qu'ils connaissent pas. Son compagnon n'a pas de travail. Mentalement,
dans un endroit où ils sont pas forcément très bien accueillis non plus.
Ils sont pas très bien accueillis. Ils ont pas trop leurs repères. Ça reste quand même des métiers très peu payés aussi. Donc, elle est un petit peu. Elle a beaucoup de choses à gérer. Donc elle est soucieuse un petit peu.
Elle a de quoi. Dans le jeu, alors il y a différents moments de la vie de Mélissa, il y a la vie privée, il y a la vie au travail, il y a ce qui va se passer en dehors, et j'ai vraiment pas envie d'en dire trop parce que c'est comme souvent avec Stéphane de Moustier, c'est un scénario absolument remarquable, donc je veux pas divulgâcher. Dans le jeu, qu'est-ce que vous attendez, vous, Avia Herzé, de vos partenaires?
Alors c'est un ensemble, les partenaires et les metteurs en scène aussi. Donc metteur en scène, d'être guidé si possible. En tout cas avec Stéphane, c'était vraiment super, une magnifique expérience parce que c'est vraiment un grand directeur d'acteurs.
Mais ça veut
vraiment.
Dire quoi guider pour vous?
C'est doser le jeu, par exemple, d'avoir quelqu'un quand même qui va être derrière moi, mais bon, pas trop, mais qui va quand même me dire non, là c'est trop, là moins, essaie de faire plus comme ça, là ta proposition elle était bien, mais je pense qu'il faut revenir au texte. Voilà, c'est vraiment un vrai échange artistique au quotidien. Et ça, vraiment avec Stéphane, en tout cas pour les acteurs, c'est vraiment super, c'est très agréable. Et d'ailleurs, dans le film, la plupart des détenus sont des acteurs non professionnels qui n'avaient jamais joué pour la plupart. Donc du coup, j'attendais pas vraiment. Pour moi, à partir du moment où ils sont sur le plateau, c'est des acteurs, quoi. Peu importe, je vais pas regarder leur passé. Et non, j'attends en tout cas une vraie écoute. Voilà, pour moi, en tout cas, dans le jeu, c'est l'écoute qui est importante. Enfin, il faut s'écouter. Il faut aussi se dire bon bah si l'autre sort du texte, si j'écoute bien, je suis capable de rebondir et pas s'arrêter, parce qu'il y en a parfois qui s'arrêtent. Hein. Quand on dit pas le texte, vraiment, il y en a qui s'arrêtent, ils ne parlent plus, ils comprennent pas, ils sont perdus, alors que non, il faut s'adapter, ça tourne. S'il y a un petit accident, c'est pas grave, il faut continuer. Donc non, j'attends rien, j'attends de vivre de belles émotions.
C'est ce que plutôt. Vous proposez, vous, du coup. C'est-à-dire d'être à l'écoute, de suivre, d'être dans l'instant.
Il faut être essayant, en tout cas, malgré la technique. Ce que disait tout à l'heure Abdelatif,
oui.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques et que parfois c'est lourd. Et en fonction des réalisateurs, parfois c'est de plus en plus lourd. On est très gêné, parfois on a quelqu'un qui vient nous repoudrer, nous arranger le t-shirt, le truc, mais bon, en même temps, c'est important parce que ça fait partie de l'artistique. Mais il faut faire vraiment abstraction de tout ça, quoi. Il faut faire comme si il y avait personne, quoi. C'est très important. Et ça, par contre, je l'ai appris avec le temps, hein. Parce qu'au début, moi, ça me gênait beaucoup. Je suis passée de la graine et le mulet où vraiment la technique, elle était carrément inexistante, à part les caméras et le son. À vraiment parfois des trucs où on me demande de regarder un scotch ou enfin c'était ça, franchement ça a été très très difficile, ouais. Les scotchs c'est pas pour moi, quoi.
Alors, vous disiez tout à l'heure votre frustration à Bzaerzé d'avoir fait que souvent le plus souvent deux prises dans Mektoum, Canto Uno. Ça veut dire que vous aimez aussi chercher de prise en prise, ou est-ce qu'il y a une sorte d'idéal vers lequel vous voulez tendre?
Non, j'aime vraiment chercher de prise en prise, en tout cas quand c'est possible. Non, j'aime être surprise. J'aime pas, en tout cas, tout ce qui est trop classique, quoi. Quand c'est trop prévu, j'aime pas. Ça m'intéresse pas. Mais non, je me dis que plus on refait, plus on apprécie en tout cas le moment, et plus on a, on va dire, de possibilités de choses différentes.
Puis vous le disiez, avec les différentes prises, c'est le cinéaste au final, hein, qui choisit sur le oui. banc de montage. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs pour vous-même, pour vos propres films de cinéaste, est-ce que c'est beaucoup de prises justement, ou est-ce que vous savez, ou vous mettez en condition pour qu'il y ait peu de prises?
Alors moi j'adore faire et parfois je me dis c'est trop, et au montage je me rends compte que, en fait, heureusement que j'ai beaucoup refait. Donc vraiment je conseille en tout cas aux jeunes cinéastes de ne pas avoir peur d'avoir de la matière. Non, et après souvent je sais ce que je vais garder. Souvent, de toute façon, quand j'écris, je pense au montage, plus ou moins. Et quand je filme, pareil. J'essaie de trouver vraiment des plans de fin, de début. C'est important pour moi, après, pour communiquer après avec la monteuse ou le monteur, et pour essayer de visualiser le film, quoi.
Et puis on parlait de partenaires, il se trouve, hasard des calendriers, que vous venez de tourner deux fois avec Isabelle Huppert, devant la caméra d'André Téchiné, un film qu'on espère voir bientôt, et puis avec Patricia Mazui pour ce film qui va être présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Qu'est-ce que c'est comme expérience ou double expérience de jouer avec Isabelle Huppert?
C'était marrant, parce qu'en plus, à 6 mois d'intervalle, même si le film de Patricia Mazui, j'avais le projet avant, c'est un projet quand même qui date d'au moins 3 ans. Mais bon, on a fait celui d'André avant. Non, très belle rencontre artistique. Bon, je l'avais déjà croisée sur des événements, on avait déjà échangé, je la trouvais déjà très sympathique. Mais là encore plus, franchement, c'est une belle personne.
Ouais, sur le travail, c'est quand même quelqu'un de très impressionnant. J'ai eu l'occasion de l'avoir quelques fois sur des plateaux.
Non, mais en tout cas, on s'entendait bien. On s'entendait bien parce que elle est très concentrée, moi aussi. Donc, c'était super, vraiment.
Il y a des choses à prendre comme ça quand vous... Alors, que ce soit avec des partenaires de jeu ou des films que vous aimez, il y a des choses qui viennent vous enrichir, vous, pour votre propre pratique?
Bien sûr, tout est inspirant. Pour moi, de toute façon, j'apprends à chaque expérience, avec chaque metteur en scène, chaque acteur que je peux voir. C'est une formation, quoi, en continu.
Et puis il y a quand même quelque chose qui est quand même assez unique quand on voit votre visage sur grand écran à Bzaerzé, c'est il y a un mystère. Et alors c'est très étonnant parce que dans Bonne Mère, celle qui joue la bonne mère, il y a une ressemblance folle avec vous. Non, mais c'est très étonnant parce qu'il y a aussi ce mystère. Alors, ce mystère, vous en avez fait l'expérience vous-même puisque vous avez joué le premier rôle de Tu mérites un amour, et vous avez évidemment donc réalisé, monté. Comment vous vous regardez, vous?
Bah, par exemple, sur Tu mérites un amour, vraiment, j'avais de la distance. En tout cas, au montage, c'était comme si c'était pas moi, quoi. J'avais vraiment... Vraiment, ouais. Il y a eu un truc où... c'était pas moi, quoi. C'était le personnage. Et c'est vrai que pour l'actrice qui joue dans Bonne Mère, c'est vrai. De toute façon, tous les personnages féminins que je choisis un petit peu, il y a un truc un peu comme ça, mystérieux, mélancolique... Et d'ailleurs, cette dame, dès que je l'ai vue, parce qu'à la base, c'était un personnage qui était plus âgé, et je voyais des dames et ça marchait pas, c'était trop dur à filmer. Déjà, le sujet était dur, en plus, prendre quelqu'un, ça fonctionnait pas. Et quand j'ai vu cette dame au loin, j'ai eu tout de suite un coup de cœur, quoi. C'était comme si, comme si c'était écrit, c'était très bizarre.
Une forme de reconnaissance.
C'était étrange, ouais. Il y a eu un truc. J'ai su tout de suite. Et après, bon, quand même, j'ai fait des essais, hein, parce que il fallait voir. Et voilà. Dès que j'ai posé la caméra, au bout de 5 secondes, je me suis dit non, mais c'est bon, ouais. C'est elle.
En effet, c'est elle. Borgo, c'est demain au cinéma, dans toutes les bonnes salles. Le film de Patricia Mazui sera à Cannes. Il n'est pas encore daté pour sa sortie, mais on espère que ça ne tardera pas trop. Celui d'André Téchiné non plus. Mais le prochain film d'Afzia Herzi, si on peut en dire deux mots, on peut l'espérer quand ?
En tant que réalisatrice, oui. Ouais. si tout va bien, j'espère tourner prochainement. Avant les JO, parce qu'il y a une partie... Donc là, on se dépêche pour tourner avant les JO. C'est pas évident, parce que on a pas mal de refus d'autorisation pour certains décors. Et il y aura une partie dans l'Est. Donc c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle La Petite Dernière.
De Fatima Das,
qu'on m'a proposé à la sortie de Tu mérites un amour. Donc ça date un petit peu, ouais. Et que j'ai lu, que j'ai adoré. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas se lancer dans le défi de l'adaptation. Voilà, un autre défi à relever.
Encore un défi pour Afzia Herzi. Le film de Stéphane de Moustier, Borgo, sort donc demain sur les écrans. Allez-y le plus tôt possible. Hein, c'est toujours le conseil que je vous donne. Merci d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Pour apprendre à jouer du sitar, difficile d'avoir meilleur maître que Ravi Shankar. Sa fille, Anushka, peut en témoigner. À 8 ans, elle commence à apprendre les rudiments de l'instrument auprès de son père, qui lui enseigne les principes de la musique hindoustani, la musique classique de l'Inde du Nord. Elle a seulement 13 ans quand elle joue pour la première fois en public à l'occasion du concert des 75 ans de son père à New Delhi. Habituée à se produire dans les salles du monde entier, elle s'est engagée à sortir le sitar des clichés exotisants que la période hippie avait contribué à façonner. La musicienne, certes moins populaire que sa demi-sœur Norah Jones, a multiplié les projets, n'hésitant pas à créer des ponts avec le flamenco ou encore la musique électro. Son dernier projet en date est une trilogie, dont le deuxième chapitre, How Dark It Is Before Dawn, vient de paraître, publié au format court de l'EP. Il le transcrit en musique ambiante, la tranquillité d'une nuit de pleine lune sur une plage de Californie. On a très envie d'y être, ça tombe bien. Voici le morceau Pacifica, notre son du jour. Thank you. Comme ça fait du bien. C'était Pacifica d'Anushka Shankar, extrait de son EP How Dark It Is Before Dawn.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous donc ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Liévin dans le Pas-de-Calais et je vous propose ce soir une visite exclusive du Centre de conservation du Louvre.
Bonjour, alors moi je m'appelle Marie-Lise Marguerite, je suis conservatrice du patrimoine et directrice déléguée du Centre de conservation du Louvre.
Alors, on vient d'arriver, ce Centre de conservation du Louvre ici à Lens. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre ?
Alors ce lieu, il est tout à fait singulier. C'est le lieu de la conservation sur le long terme des objets du musée du Louvre qui ne sont pas présentés au public. Donc on va veiller à ce qu'ils se conservent dans de bonnes conditions, à 50% d'hygrométrie, 20 degrés, en toute sûreté, loin des rayons lumineux, voilà. Et on va les étudier surtout, parce que ces objets, ils sont pas faits pour être mis en boîte, mais bien pour être expertisés, étudiés. On va améliorer leur état de présentation, puisque des restaurateurs travaillent aussi ici. On a de grands ateliers de restauration. L'objectif, c'est bien que ces objets-là rencontrent, à un moment donné, le regard du public, qu'ils soient mis en mouvement et qu'ils soient présentés à l'extérieur du centre de conservation.
Ici, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public.
C'est pas un lieu ouvert au grand public, en effet. C'est un lieu de travail pour les équipes scientifiques du musée du Louvre, qui viennent quotidiennement travailler sur leur collection. C'est aussi un lieu de rencontre et de débat, d'échange entre tous les professionnels du domaine du patrimoine. Donc on y développe aussi au centre de conservation des formations. On accueille les universités, on accueille l'Institut national du patrimoine.
Le Louvre est à Paris, enfin la maison mère est à Paris. Pourquoi avoir choisi de conserver les réserves du Louvre dans une autre ville ?
Alors, en effet, ici, vous êtes au Louvre et vous êtes au cœur des Hauts-de-France. C'est un peu l'ambiguïté du site. C'est très significatif, en fait, cette implantation à Liévin du centre de conservation. D'abord, c'était un enjeu stratégique, ou un enjeu même de sécurité, puisque au sein du Palais du Louvre, les collections sont soumises au risque de crue.
Et le Louvre est tout près de la Seine à Paris.
Exactement, la Seine menace d'une crue centennale, mais connaît aussi des mouvements de remontée des eaux qui sont de toute façon des menaces pour les collections. Donc l'enjeu de sortir les collections non présentées au public, c'est déjà favoriser leur propre conservation et puis faciliter les opérations d'urgence en cas de besoin pour les œuvres présentées au public à Paris. C'est aussi la possibilité de développer un bâtiment d'une surface assez importante, 18 500 m², des qualités d'espace de travail assez incroyables pour les équipes du musée du Louvre. Et puis l'implantation à Liévin, elle s'explique en fait par la proximité du Louvre-Lens.
Combien d'objets sont conservés ici ?
Aujourd'hui, on a un peu plus de 236 000 objets conservés au CCL. C'est vraiment un lieu qui est fait pour toutes les typologies de collections dont le musée du Louvre a la charge, qui peuvent être des collections monumentales et qui peuvent être de tout petits objets. Donc ici, vous allez trouver les grandes colonnes qui ont orné à un moment donné les façades du palais du Louvre, colonnes monumentales de quelques 5, 6 mètres de haut. Et puis vous allez trouver les petits tessons de céramique qui ont été rapportés de Mésopotamie, qui sont des objets d'étude et qui se trouvent dans les réserves tout à l'est.
Oui, donc collection monumentale qui explique ce bâtiment qui lui aussi a des proportions vraiment monumentales.
C'est aussi un lieu exceptionnel de ce point de vue-là. On dispose notamment pour les ateliers de restauration de peu d'espaces aussi vastes que ceux que propose le CCL. Et ça, c'est un atout pour tous.
Vous nous faites visiter, on a le droit ?
Oui, avec plaisir.
Merci.
Alors on arrive ici dans cette zone sud du bâtiment, l'espace de logistique. On se trouve ici dans l'espace emballage-déballage. Donc on va préparer les objets ici et quand les œuvres arrivent, on va ouvrir les caisses.
Pourquoi un objet en fait, du Louvre arrive ici ?
Alors, il peut arriver ici parce qu'il ne bénéficie pas d'un espace de présentation au sein du musée du Louvre. Néanmoins, ça reste un objet patrimonial national qui a pu être présenté dans une exposition temporaire, par exemple, ou qui a été présenté dans les salles. Alors, on a notamment le cas des tapis des arts de l'islam qui ne peuvent pas être présentés en permanence parce qu'ils sont trop fragiles pour être exposés en permanence à la lumière du jour. Donc, on va les présenter par rotation. Et puis, quand ils ont fait leur travail, quand ils se sont montrés au regard du public, on va les remettre en réserve, les laisser se reposer un petit peu pour que d'autres générations puissent aussi l'observer. Et avant de le rentrer dans les collections, on va en effet le traiter pour éviter, là, en l'occurrence, le développement de mythes. C'est toujours un risque. Et ça, c'est un problème pour nous parce qu'on est là vraiment pour éviter que les objets se dégradent.
D'ailleurs, le volume des salles, à chaque fois qu'une porte s'ouvre, c'est toujours très impressionnant. Là, on a une hauteur de plafond énorme avec ces immenses baies vitrées. Là, vous êtes en train d'ouvrir les stores. Le volume impressionne.
Presque 10 mètres de hauteur sous voûte ici. Et un espace extrêmement vaste. C'est le plus vaste en réalité des ateliers. Il fait 310 mètres carrés au sol.
Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'on y rentre, les volumes étant tellement énormes et de l'extérieur, on ne le voit pas. Il y a ce paradoxe qui est flagrant.
Oui, c'est le génie de l'architecte de faire un bâtiment qui réponde aux impératifs et aux enjeux du Louvre, qui sont des enjeux monumentaux, et en même temps, qui n'est pas un bâtiment grandiloquent, repoussant. Voilà, bon, on y est très bien. Alors, dans cet atelier, finalement, vous trouvez un peu l'organisation générale de tous nos ateliers. Ce ne sont pas des ateliers spécialisés, comme on peut le voir dans d'autres centres de conservation. Ici, on a fait le choix d'ateliers polyvalents, les plus polyvalents possibles. Et c'est pour ça que vous l'avez remarqué, pas de cloison, pas de poteaux. Ce sont de grands plateaux libres dans lesquels il n'y a absolument pas de mobilier fixe et on vient apporter, aménager les espaces en fonction des besoins. Ce qu'on va retrouver dans tous les ateliers, en revanche, ce sont des installations techniques qui vont permettre aux restaurateurs de travailler en toute sécurité. Donc vous avez des grandes trompes, qui sont des bras d'aspiration pour les solvants et les poussières. Et puis là, en attente, vous avez cette fameuse peinture, cette toile, qui est un des mets de Notre-Dame de Paris et qui va être restaurée dans cet atelier-là pendant quelques mois, un peu plus de 9 mois, pour ensuite regagner la cathédrale Notre-Dame. On a plusieurs opérations en cours aujourd'hui. Là, vous avez vu un atelier dans lequel on a juste l'objet en attente. Mais il y a des restauratrices qui sont en train de travailler chez nous. Et moi, j'aimerais bien vous les faire rencontrer.
Avec plaisir.
Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Voilà, on est dans une phase de consolidation d'un tapis dans le cadre d'une campagne de restauration des tapis du département des arts de l'islam du musée du Louvre. Et on travaille en équipe pour la consolidation d'un tapis très usé qui fait partie des collections et qui sera exposé après dans les salles du département des arts de l'islam au Louvre.
Donc consolider, ça veut dire quoi concrètement? Là, je vous vois avec une aiguille
voilà.
À la main.
Voilà, alors on travaille essentiellement en consolidation à l'aiguille, en effet une consolidation manuelle, en utilisant un fil de coton là, qui est adapté à la consolidation qu'on doit faire pour maintenir les zones les plus fragiles ou les plus dégradées sur un tissu de support qui est placé sous le tapis. Donc là, on travaille régulièrement en faisant des lancers de points à l'aiguille, si ça veut bien passer, voilà, pour que toutes les zones dégradées soient maintenues et que le tapis retrouve sa cohérence structurelle.
Moi, je vais vous emmener maintenant dans le Saint des Saints, dans une réserve, la première.
Ah oui, là, on est bien dans des réserves.
Les œuvres sont conditionnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour être... Enfin, en tout cas, elles ne sont pas faites pour être tout à fait visibles, voilà. Mais bien pour être conservées. La particularité du centre de conservation tient, encore une fois, à la particularité des collections du Louvre. En l'occurrence, ici, vous êtes dans la réserve des très grands formats inorganiques pondéreux. C'est-à-dire les grosses pierres lourdes.
Et on va y trouver. Voilà, on a un ensemble de colonnes juste un peu plus loin, assez impressionnantes.
On a aussi juste derrière nous des éléments du palais des Tuileries, qui est un peu le fantôme. Hein,
on distingue des chapiteaux, des bouts d'éléments architecturaux.
Oui, ils sont tous enfermés dans ces grands compactus. Donc ce sont des racks mobiles en réalité. Comme on est sur du très grand format, très lourd, ce sont des racks électriques. Ça veut dire que pour manipuler les palettes qui se trouvent à 6,50 m, il faut aussi être sacrément aguerri. Et donc on a recruté dans l'équipe notamment un installateur alors qui vient du monde de la logistique et qui est cariste et qui s'est formé ensuite à la conservation préventive avec nous.
Oui, durant toute cette visite, on s'aperçoit bien qu'en fait, il y a un large éventail de corps de métier qui travaillent dans un centre comme celui-là. On ne l'imagine pas, a priori.
Non, on s'imagine d'ailleurs pas ce site avec des personnes, on imagine souvent des œuvres toutes seules. En fait, non, il y a une vraie chaîne de compétences autour des objets et c'est nécessaire d'avoir ces profils extrêmement divers qui vont chacun à leur endroit agir pour la préservation et pour la valorisation des collections.
Il existe combien de réserves comme celle-ci ?
Alors, au centre de conservation, on en a 6. 6 réserves dans lesquelles les collections sont réparties par dimension, par matériaux et par ensemble scientifique.
Eh bien, merci beaucoup pour cette visite.
Je vous en prie, Marie, avec plaisir.
Et suite du grand tour, demain, Marie, au soirez-vous ?
Bien demain, Arnaud, il me suffira de traverser le parc et rejoindre ainsi le Louvre Lens qui présente son exposition de printemps qui s'appelle Monde souterrain.
Merci Marie Sorbier, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.